morning edition from NPR News.
Let's see things on the house.
France Inter, le 18-20.
Dubaï a ouvert son exposition universelle à la Dubaï, c'est-à-dire dans l'excès, le fast, le toujours plus grand et toujours plus tout. Mais en fait, c'est quoi Dubaï, cette petite partie des Émirats Arabes Unis qui semble attirer le monde entier, qui fait du soft power, toute l'articulation de sa politique? On y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Bolivie, où parents et associations essaient de lutter contre des trafics et des réseaux qui enlèvent et prostituent les jeunes filles. Un vrai phénomène terrible dans ce pays. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé un caricaturiste, le caricaturiste suédois, mort dans un accident de voiture, des agriculteurs en Inde et du café en Sicile. 18h50, le monde selon Joe Biden, avec un président américain qui est décidément sorti de son état de grâce, impossible de passer ses réformes, en tout cas pour l'instant. 18h55, le monde d'après de Franck Madvon, ou comment le ciel est de plus en plus couvert pour Boris Johnson. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vice-présidente de l'IREMO. Vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient et des questions de Méditerranée. J'ai tout mis aujourd'hui. À l'ENA et aussi à Sciences Po. Dubaï donc, Agnès Levallois, dont on a inauguré l'exposition universelle en fin de semaine, le 1er octobre dernier. Très fastueux, la plus fastueuse du jamais vu. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous, avant que ça ouvre l'année dernière, parce que normalement c'était l'expo 2020. Ça ressemble à quoi?
Écoutez, Dubaï, c'est une ville-État, c'est-à-dire que c'est un endroit absolument incroyable. Vous avez des bâtiments absolument magnifiques, puisque comme il n'y a pas de limite et que l'argent est présent, les architectes peuvent s'en donner à cœur joie et donc construisent des tours, des îles artificielles, des chantiers. Il y a des chantiers en permanence et d'une année sur l'autre, j'y vais en gros une fois par an. Je ne reconnais pas la ville, tellement de constructions poussent en plein désert. Et donc, en même temps, avec un sentiment à chaque fois que j'y vais, la première fois que je suis allée, c'est en 1982, donc c'est très ancien, qu'un jour ou l'autre, le sable va tout recouvrir, tant ça paraît un endroit absolument incroyable et sorti de nulle part.
Alors justement, parce qu'en 82, la première fois que vous êtes venue, c'était du sable, non? C'était des dunes, c'était rien d'autre, en fait. Ça naît de la volonté de qui, cette affaire de Dubaï?
Eh bien, ça naît de la volonté des responsables de la Fédération des Émirats Arabes Unis, essentiellement Dubaï et Abu Dhabi, puisque dans cette fédération qui comprend 7 émirats, les deux plus importants sont en premier lieu Abu Dhabi, qui est la capitale, et Dubaï qui est les deuxième plus grosse ville, mais qui n'a pas autant de ressources en termes de pétrole que Abu Dhabi, qui en a pratiquement plus aujourd'hui, et qui donc, pour garder quand même une certaine puissance au sein de la fédération, a déployé beaucoup de talents et d'énergie pour se développer, diversifier son économie et ne pas être complètement dépendant d'Abu Dhabi, puisque, petit rappel, en 2008, il y a eu une crise financière très grave et qui a vraiment touché de plein fouet Dubaï et qui n'a eu son salut qu'au fait qu'Abu Dhabi donne de l'argent pour sauver Dubaï. Et depuis, Dubaï continue à diversifier le plus possible son économie pour ne plus être dépendant comme il l'a été d'Abu Dhabi, et pour montrer qu'il est capable de se développer et donc dans ce cadre-là, il est toujours dans la démesure la plus incroyable. Et l'exposition universelle, c'est vraiment ça, c'est-à-dire montrer que Dubaï est capable de présenter au monde entier des réalisations incroyables. Et ça vient en plus là avec le 50e anniversaire de la fédération, de la création de la Fédération des Émirats Arabes Unis, puisque ça date de novembre 1971.
Alors, vous le dites, Agnès Levallois, en effet, on parle de démesure. Enfin, rien que le site de l'expo, c'est plus de 600 terrains de football. Enfin, c'est la plus exceptionnelle de l'histoire, dit-on. 191 pays, alors qu'il y en avait 145, je crois, à la dernière exposition universelle qui était en Italie. Le but, c'est d'épater la planète, en fait. On a l'impression que ça sert à ça, Dubaï. Ça sert à épater autour.
Ça sert d'abord à montrer que Dubaï existe, puisqu'il faut bien voir que ces émirats sont donc de création très récente. La fédération 1971, avant c'était des comptoirs le long de ce golfe, et donc il faut bien comprendre que pour tous ces émirats, que ce soit Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, il faut exister sur la carte du monde. Et donc, à partir du moment où ce sont des états ou des entités qui ont en plus bénéficié d'une manne pétrolière incroyable, ces villes-états ont mis cet argent vraiment à la disposition d'un développement pour être sur la carte du monde, pour exister et pour se rendre indispensable. Parce qu'aujourd'hui, Dubaï, c'est quoi ? C'est aussi un hub incroyable entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Donc, il y a cette vocation aussi à être un lieu, quand on voit l'aéroport de Dubaï, qui est un truc énorme, où tous les avions s'arrêtent pour partir vers l'Asie, vers l'Afrique. Et donc, ça les rend, à ce moment-là, absolument incontournables.
L'impression que ça laisse, c'est que c'est c'est un pays sans habitants, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a effectivement, j'imagine, il y a des gens qui naissent à Dubaï, certes, mais sinon, c'est pour un Émirati, il y a combien d'étrangers dans une ville
comme ça ? Alors, sur la fédération, pour 10 millions de personnes qui appartiennent à la fédération, il y a 1 million de locaux. Donc, 10%. Et quand on se promène, effectivement, à Dubaï ou à Abu Dhabi, en fait, on voit très peu de locaux. Parce que d'abord, ils se promènent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en plus les conditions climatiques sont pas toujours très favorables. Mais moi, qui parle arabe à Abu Dhabi ou à Dubaï, je ne parle jamais arabe parce que tous les commerces sont tenus par des Pakistanais, par des Indiens, et donc c'est un endroit qui paraît complètement hors sol. Et avec en même temps cette capacité et vision qu'ont eu quand même les responsables de cet endroit-là à quand même faire en sorte que ça se développe, que beaucoup de gens sont fascinés et veulent y aller, veulent aller vivre là-bas, veulent aller travailler là-bas, alors qu'il y a quand même d'énormes contraintes, quand même.
Alors, pas seulement climatiques, d'ailleurs, il y a aussi de multiples contraintes, mais vous disiez, effectivement, il y a cette espèce de côté qui est terriblement hors sol, mais ce que ça veut dire, c'est que, est-ce que ça repose sur du sable au sens propre comme au sens figuré ? Vous le disiez, il n'y a plus de pétrole, ou très peu, en tout cas, c'est la 7e production mondiale, je crois, donc, qui est en train de s'épuiser. Toutes les ressources viennent de ce que les étrangers, au fond, apportent et construisent. Ça veut dire que si demain ils s'en vont, est-ce que ça retourne au sable cette affaire-là ?
On ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on est sur place, parce que c'est vrai que toute la vie économique fonctionne grâce à cette main-d'œuvre étrangère. Alors avec différents niveaux, vous avez les occidentaux qui sont dans les grandes sociétés qui vont tenir les banques ou autres, et puis vous avez là tout le personnel, alors là qui est vraiment traité comme pratiquement comme des esclaves, qui sont les travailleurs venant d'Asie du Sud-Est et qui eux gagnent vraiment très très peu et sont complètement entre les mains de leur employeur, parce que leur visa dépend de l'employeur, donc ils sont complètement coincés par cela. Donc, il y a différentes strates, et puis au milieu, vous avez le personnel qui vient des pays arabes, qui ont servi de cadre intermédiaire, que lorsqu'il a fallu créer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 71, quand la fédération émerge, se crée, ben, il faut de la main-d'œuvre pour créer un État, pour créer des États. Et donc, on fait appel à une main-d'œuvre extérieure pour pouvoir former et puis faire tourner le pays.
Alors, on va revenir à d'abord la main-d'œuvre quasiment esclavagisée, en effet, parce que c'est quand même une constante dans tout ce qu'on a du monde. Mais un mot quand même sur les autres. Parce qu'on a bien vu pendant la crise du Covid qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés pour aller se confiner chez eux différemment. Et du coup, on a bien vu qu'il y avait eu un trou dans l'économie à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie fragilité, en fait, parce que là, pour l'instant, l'argent est là. Demain, l'argent peut partir ailleurs, dans un endroit qui sortira de terre de la même manière, qui s'appellera différemment et où tout le monde se retrouvera finalement.
Oui, il y a une vraie fragilité. C'est pour ça que les responsables aux Émirats font tout pour essayer quand même de pérenniser l'activité économique qu'ils ont. Donc ça, ils ont quand même réussi en développant un certain nombre de stratégies. Donc c'est la stratégie du soft power. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours besoin de la main-d'œuvre étrangère. Mais cette main-d'œuvre étrangère est quand même fascinée parce qu'elle est quand même, il y a des ressources financières qui font que vous trouverez toujours des personnes qui seront intéressées pour aller travailler dans les Émirats en acceptant de mettre de côté certains aspects de la vie qui normalement sont importants parce que c'est attractif, parce que il fait beau, parce que il y a une impression de vie assez facile et bien payée.
La stratégie, est-ce que c'est aussi... c'est marrant, vous voyez, parce qu'on parlait d'autres paradis fiscaux tout à l'heure aux Émirats, et notamment là où on planque son argent. Est-ce que c'est un paradis fiscal, Dubaï ?
Il n'y a pas d'impôt.
Donc alors, voilà, mais ni sur le revenu, ni sur les sociétés ?
Non, il n'y a pas d'impôt. Donc c'est vrai que alors, ils ont introduit la TVA il y a 2 ans, qui a été quand même un bouleversement important. Donc maintenant, il y a une TVA, ce qui n'existait pas auparavant.
Une TVA donc, 5%,
5%. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est quand même... Ça a été quand même un peu un choc, parce que ça a montré que ce mirage, quand même... bon, continue à exister, bien évidemment, mais qu'il commence à y avoir des contraintes parce que la situation économique n'est plus aussi florissante qu'elle a été. Et c'est vrai que les 2 années passées avec le Covid ont quand même ralenti sérieusement l'activité parce que ben, tout ce qui est hub, justement, et cet investissement considérable fait dans la compagnie aérienne Emirates et l'aéroport, ben, ça n'a pas fonctionné pendant 2 ans. Donc ça, c'est une chute de revenus considérable.
Et à un moment, est-ce que ça ne deviendra pas, alors là, pour le coup, totalement hors sol, d'avoir plus de piscines au kilomètre carré que nulle part ailleurs, mais ça c'est beaucoup d'eau, écologiquement ça n'a aucun sens, d'avoir 70% de son énergie, de son électricité qui est mise dans les dans la climatisation, forcément s'il fait 50 degrés dehors, d'avoir des pistes de ski, parce qu'on en est quand même là, à un moment ça n'aura plus de sens en fait. Est-ce que tout ce que nous dit Dubaï aujourd'hui, et notamment à l'Expo Universelle sur le développement durable, tout ça, est-ce que vraiment il faut l'entendre, est-ce que ça a du sens? Pour l'instant, le pays qui a l'empreinte carbone la plus démente au monde, c'est Dubaï.
Et oui, alors c'est vrai qu'ils essayent de se projeter et de faire en sorte de mettre en place justement, d'être beaucoup plus connectés et de faire beaucoup plus attention à tous ces aspects-là, parce que les responsables se rendent compte qu'effectivement, en termes d'abord d'image, au bout d'un moment c'est plus très bon, ce qui a été fait avec la fameuse piste de ski dans le mall, oui, le centre commercial, je l'ai vu évidemment, c'est quand même absolument hallucinant. Donc ça marchait il y a 10 ans, ou il y a 20 ans quand on a commencé à faire ça. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile à assumer. Donc c'est vrai qu'ils
Mais du coup on les croit quand ils disent que ils vont inverser intégralement la tendance ou pas ?
Oui, parce qu'en même temps, ils savent qu'ils doivent le faire et qu'ils vont le faire parce qu'ils n'auront pas sinon les moyens de continuer sur ce rythme-là. Et comme ils ont pour l'instant de l'argent, c'est vrai que ça leur permet aussi d'anticiper et de se projeter dans un développement différent. Il y a un autre avantage qu'à Dubaï par rapport aux autres pays de la région, c'est que Dubaï est la place qui est commerce avec l'Iran. Mmh. Et donc ça, c'est une ressource pour l'émirat de Dubaï extrêmement importante, puisque c'est par là qu'une grande partie des sanctions contre l'Iran sont détournées par tout un trafic dans le Golfe entre les deux pays. Et ça, c'est une ressource considérable. Et beaucoup d'argent iranien se trouve dans les banques à Dubaï. Alors que Dubaï et les Émirats sont très proches des Américains, tout le monde ferme les yeux et tout le monde accepte cela aussi. Donc c'est aussi ce jeu-là de Dubaï avec l'Iran, en termes là de géopolitique, qui est extrêmement important et qui donne de l'importance à Dubaï.
Est-ce qu'il y a une concurrence justement entre tous ces Émirats ou peut-être avec le Qatar, avec tous ces... Parce que je pense au Qatar parce qu'on a l'impression qu'on est dans le même genre de soft power, en fait, exactement. Il y en a qui font du sport, là on fait l'exposition universelle, donc on a l'impression de deux pays miroirs. Est-ce que ce sont deux pays miroirs? Est-ce qu'il y a une vraie concurrence entre ces deux-là ou pas?
Ah oui, énorme. Et le fait que le Qatar ait obtenu la Coupe du Monde de football, pour les Émirats, c'était à proprement insupportable, puisque ça voulait dire que le Qatar... Alors là, tout le monde connaîtrait le Qatar grâce à la Coupe du Monde, parce qu'il n'y a pas plus populaire à travers le monde. Et pour moi, l'exposition universelle, elle est vraiment, comme vous dites, en effet miroir avec le Qatar et avec cette Coupe du Monde. Et toute la stratégie des Émirats ces dernières années, ça a été d'essayer de casser le Qatar pour que le Qatar ne puisse pas tenir la Coupe du Monde, alors que Dubaï réussirait, lui, à avoir son exposition universelle et donc de montrer que la fédération était beaucoup plus solide que le Qatar.
Alors c'est intéressant parce que le Qatar joue de son soft power, mais enfin le Qatar a beaucoup souffert quand même de la très très mauvaise publicité qu'on lui a fait à juste titre sur la manière dont étaient traités les gens qui ont construit les stades, etc. La même chose existe à Dubaï. On traite les gens de la même manière, les petites gens en tout cas, et c'est fou comme on en parle moins en fait. On a l'impression qu'ils en pâtissent moins, alors qu'ils sont pas plus vertueux, loin s'en faut, que les Qataris.
Non, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il y a une déclaration il y a quelques jours d'un des responsables de l'exposition universelle pour dire qu'il y avait eu finalement que 3 morts pendant tous les travaux. Et on voyait bien que c'était une réponse justement à des critiques, parce que il y a évidemment cet aspect-là qui est... Enfin, il suffit de voir les travailleurs sur ces tours, sur les chantiers de construction quand il fait 50 degrés. Enfin, c'est évident qu'il n'y a pas pu y avoir que 3 morts évidemment, de toute façon, pendant tous ces travaux. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où vraiment les regards ont été complètement tournés vers le Qatar à cause de la Coupe du Monde, et parce que ça a un impact quand même finalement beaucoup plus important que l'exposition universelle. Donc les organisations des droits de l'homme ont beaucoup plus regardé ce qui se passe au Qatar, parce que là, il y avait des investissements considérables qui étaient en train d'être faits pour cette Coupe du Monde. Maintenant que l'exposition a été inaugurée, c'est vrai qu'on commence à regarder et qu'il y a quand même quelques critiques.
Alors, il y a quelques critiques, on les entend finalement peu, mais ça existe. Regardez, il y a eu une tentative de boycott qui venait du Parlement européen. Oui. On ne peut pas dire que ça a eu un grand succès, puisque chacun a son pavillon, nous y compris. Par ailleurs, donc personne, on est d'accord, n'a boycotté quoi que ce soit. On a l'impression qu'on oublie aussi, enfin je veux dire, les Émirats, c'est aussi la guerre au Yémen, les Émirats, ce sont des armes, enfin, il y a...
Oui, mais en même temps, les Émirats, ils ont eu cette stratégie. N'oubliez pas, ils ont signé un accord avec Israël récemment, et que ça permet de dire que c'est un pays plus ouvert que d'autres, et qu'à partir de là, eh bien, il y a tout le soutien qu'on doit aussi apporter à cet État qui a fait le bon choix, si je puis dire, qui est très proche des Américains. Et donc, je pense que ça participe aussi de l'image que l'on a des Émirats. N'oubliez pas, pour la France, en tous les cas, on a une base militaire à Abu Dhabi, donc on a le Louvre à Abu Dhabi, et donc à partir du moment où on on a accepté cette coopération et qui va quand même dans des domaines aussi très symboliques pour la France, le Louvre, c'est pas rien, et la base à Abu Dhabi, d'un point de vue militaire. Donc, il est difficile de critiquer un pays qui a réussi ce tour de force, à apparaître comme un pays très ouvert, alors que très souvent, quand vous allez à Abu Dhabi ou à Dubaï, WhatsApp ne fonctionne pas, parce tout est extrêmement contrôlé. Il y a des politologues qui sont en prison, émiriens qui sont en prison, parce qu'ils ont émis quelques critiques. Et c'est vrai que tout a été beaucoup plus focalisé sur le Qatar que sur les Émirats, et qui ont bénéficié de cela.
Alors peut-être aussi, ce sera la dernière question, au Qatar pendant la Coupe du Monde, il y a des gens de partout dans le monde qui iront peut-être d'ailleurs l'exposition universelle. Honnêtement, est-ce qu'on va vraiment traverser le globe pour aller à l'exposition universelle? Qui va y aller, à part beaucoup de gens sûrement, mais qui sont limitrophes au fond, non?
Je crois qu'il va y avoir aussi des Occidentaux qui vont y aller, avec le sentiment que c'est quand même un truc absolument incroyable. Justement, étant dans la démesure, avec des réalisations absolument incroyables, il va y avoir un effet de curiosité. Et vous avez de plus en plus de gens qui se disent, comment je peux me démarquer pour aller passer des vacances plutôt que simplement à la plage? Eh bien, je vais aller à Dubaï, et il fait beau, et la vie est belle.
Voilà, et n'oublions pas quand même ce qu'il y a derrière la carte postale. Donc, merci beaucoup Agnès Levallois, merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Ensuite, ce soir, c'est le bruit du monde et vous allez découvrir qu'en Bolivie, un terrifiant trafic de jeunes filles que l'on envoie se prostituer, tout cela affole les familles et les associations. Le bruit du monde, la suite sous les radars, Sébastien Logénie.
La réforme agricole en Inde a fait près d'une dizaine de morts hier, mais le gouvernement ne plie pas.
Le monde selon Biden, Sébastien Power. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir, les démocrates en ordre dispersé, deux sénateurs centristes en guerre contre le groupe des modérés et rien ne se passe comme prévu pour Biden.
Le monde d'après, Franck Madvon, bonsoir à vous. Franck.
Bonsoir Fabienne, on ira au Royaume-Uni, beaucoup de bonnes nouvelles ces derniers temps pour Boris Johnson et beaucoup de mauvaises aussi.
Allez, à tout de suite tout le monde, voici le formidable Rachida avec une reprise incroyable. Tiens, je vous dis pas ce que c'est, vous allez reconnaître tout de suite. le bruit du monde. Ce soir est en Bolivie, où vous l'ignoriez comme nous sûrement, des centaines de jeunes filles sont repérées et puis enlevées pour être prostituées dans le pays ou à l'étranger. Associations et parents de victimes tentent de lutter contre ce fléau qui aujourd'hui se met en place sur les réseaux, mais les moyens manquent dans le pays et la corruption gangrène les institutions. Le reste, c'est Alice Campagnol qui raconte.
Avenue 12 de Octubre, ville de El Alto, le quartier rouge de la banlieue de La Paz.
C'est combien ?
Service complet à 4 euros. En plus, je t'aide pour le début.
On pourrait croire qu'Alvaro et Bernardo sont des clients comme les autres, des hommes venus avoir des relations sexuelles tarifées. Mais en réalité, ils travaillent pour une organisation qui s'appelle Munasim Kulakita et ils font du travail de terrain, palliant l'absence de la police. Ils observent si de nouveaux lieux de prostitution ont ouvert, mais surtout s'il y a de jeunes femmes mineures sur le trottoir.
Celle à qui tu viens de parler, elle était très jeune, non ? Notre travail est d'aller dans certains lieux stratégiques pour identifier les enfants qui consomment de la drogue ou qui vivent ce que l'on appelle de la violence sexuelle commerciale. Mais la dynamique a un peu changé avec la pandémie. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sortent plus du lieu où elles reçoivent les clients. Ce que nous avons pu identifier, c'est que la prostitution des enfants se fait à travers les réseaux sociaux désormais. Et donc, nous sommes en train d'essayer de nous mettre à jour pour mieux intervenir.
Bien qu'aujourd'hui, la traite de jeunes filles s'organise sur Internet, grâce à ce travail de rue et aux descentes dans les maisons closes, des mineurs sont parfois secourus et certaines sont accueillies au foyer de l'organisation unique en son genre. Jusqu'à 17 ans, elles sont une vingtaine à vivre ici et toutes ont été prostituées, victimes de traite d'êtres humains, souvent séduites par un soi-disant petit ami qui les force ensuite à avoir des relations avec des inconnus. Mais aujourd'hui, c'est la fête au foyer, les jeunes filles se tressent les cheveux, se déguisent, gonflent des ballons. Impossible de se tromper, malgré des petits corps de femmes, ce sont bel et bien des enfants. Rita a 15 ans et elle vit au foyer depuis 2 ans.
La vie était très dure avec ma maman. On vivait au jour le jour, on gagnait dans la journée, ce qui nous permettait de manger le soir. Il fallait que j'aide ma famille, donc j'ai fait du trafic de cocaïne d'abord. Et puis je me suis prostituée. Une passe, ça coûtait 50 bolivianos, 4 euros. J'ai été déclarée disparue, j'étais très jeune. Quand je l'ai su, j'ai paniqué et je me suis présentée chez ma mère.
Mais elles sont nombreuses à ne pas avoir la chance de Rita et à ne jamais réapparaître. Ce sont plus de 1000 personnes, en majorité des filles, qui disparaissent chaque année dans le pays. C'est le cas de Sarlette, enlevée il y a maintenant 9 ans. Elle avait 16 ans à l'époque. Et Marcela, sa mère, continue de la chercher.
Mon affaire a été close alors que les conventions internationales disent que la traite des personnes est imprescriptible. De mon côté, je continue l'enquête, mais en réalité, le problème, ce sont les moyens financiers. Ce n'est jamais assez. Toutes les familles de disparus, nous passons par là. On doit arrêter de chercher car à un moment donné, il n'y a plus d'argent.
Parmi les reproches faits à la police, le manque de moyens, la rotation des fonctionnaires enquêteurs, l'alerte enlèvement lancée trop tard, la corruption, une police inefficace donc et une justice tout aussi incapable.
Quelques centaines de personnes se rendent à la police chaque année pour une disparition, mais dans plus de 90% des cas, ça ne va pas plus loin que la plainte. Et ceux qui arrivent au procès, eh bien, ça se termine toujours par un non-lieu pour l'accusé. Il y a quoi ? 7-8 affaires qui sont allées jusqu'au tribunal. Mais à ce jour, il n'y a pas un seul trafiquant derrière les barreaux.
Sarlette, Raquel, Juliva, Patricia, Isabel, elles sont encore nombreuses à n'avoir jamais retrouvé le chemin de la maison et leurs parents, souvent sans l'aide de la police, parcourent désespérément le pays depuis des années pour réunir leur famille.
Alice Campagnol en Bolivie pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Alice. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale. Passée sous les radars, mise au grand jour par Sébastien Logeni. Et nous sommes au nord de l'Inde, Sébastien, où des manifestations d'agriculteurs ont fait plusieurs morts hier.
Oui, c'est sans doute l'épisode le plus sanglant, le plus violent depuis qu'a commencé il y a un an un mouvement de lutte massif contre une réforme agricole très critiquée dans ce pays. Hier, donc, plusieurs représentants politiques du parti au pouvoir se rendent dans un district de l'Uttar Pradesh. Au départ, une simple visite gouvernementale dans cet état le plus peuplé de l'Inde. Un comité d'agriculteurs informés de la visite se rend sur place, pancarte en main. Mais pour une raison encore inconnue, la manifestation tourne mal, le convoi ministériel est pris de panique, un chauffeur du convoi fait une embardée mortelle et tue quatre manifestants, dont un journaliste local. À leur tour, des manifestants se ruent, semble-t-il, sur les voitures officielles et font également quatre morts au moins, dont des membres du parti au pouvoir, le très nationaliste BJP. Depuis hier, sur les chaînes de télé indiennes, les images de carcasses de voitures en flammes, de blessés transportés en ambulance tournent en boucle. Une enquête est ouverte, mais la tension ne retombe pas. Les rassemblements ont été interdits dans tout le pays, les services internet coupés dans la région, les routes menant à la capitale de l'Uttar Pradesh ont aussi été fermées. Ce n'est pas le premier épisode violent depuis le début de ces manifestations d'agriculteurs, mais sans doute le plus tragique. Ce mouvement depuis le mois de septembre de l'an dernier, avec notamment des campements de dizaines de milliers de fermiers dans les rues de Delhi. Au cœur des tensions, une réforme agricole qui fait craindre aux paysans une baisse drastique de leurs revenus déjà très bas. Jusqu'ici, les agriculteurs, qui représentent 60 à 70% de la population, ont bénéficié d'un prix d'achat minimal de l'État. Mais le gouvernement de Narendra Modi entend libéraliser le secteur, permettre donc aux industriels, aux conglomérats privés de fixer les prix du blé et du riz. Et ça, les agriculteurs n'en veulent pas. Ils disent n'avoir rien à perdre. En 30 ans, 300 000 agriculteurs indiens se sont suicidés.
Direction la Suède avec la disparition brutale d'un caricaturiste de Mahomet.
L'artiste Lars Vilks est mort hier avec deux de ses gardes du corps dans un très grave accident de la route, une collision avec un camion sur la route de Stockholm. Rien n'indique que ce soit un attentat selon la police. La question en effet se posait depuis hier car Lars Vilks était connu pour avoir échappé à de nombreuses menaces de mort depuis 2007, depuis sa caricature du prophète Mahomet en chien. Deux ans après les caricatures danoises publiées par Charlie Hebdo, Lars Vilks revendiquait une totale liberté d'expression. Dans cette interview à nos confrères de France 24, il explique qu'il est possible de faire des caricatures du président George Bush, mais pas du prophète. Ça, c'est vraiment politiquement incorrect. Mes dessins ne sont pas contre les musulmans, explique-t-il, mais c'est juste une question de principe, la possibilité de pouvoir insulter, dit-il, les religions. Lars Vilks est donc mort hier à 75 ans, donc 14 années passées sous protection policière. Parmi ses ennemis déclarés, l'américaine Jihadi Jane, qui avait planifié son assassinat. En mai 2010, deux Suédois d'origine kosovare avaient également tenté d'incendier sa maison avec des cocktails Molotov. Mais c'est surtout en 2015 qu'il a échappé à la mort. Un jeune Danois d'origine palestinienne tente de faire irruption dans un débat sur la liberté d'expression. Il tire depuis l'extérieur, tuant un réalisateur danois, mais Vilks, lui, en sort indemne.
Et on termine avec une plantation de café la plus septentrionale du monde.
Oui, pour la première fois, la Sicile va produire quelques grains de café. Normalement, les caféiers ne poussent que dans l'hémisphère sud, mais avec les réchauffements climatiques, l'île italienne est désormais capable de pouvoir produire le précieux breuvage. L'an dernier, la température a atteint les 49 degrés Celsius à Syracuse. Résultat, la famille Moretino a fait sa première récolte après trois décennies d'échecs, 30 kilos de pur arabe. On entend là Arturo Moretino disserter autour de l'histoire et des bienfaits du café, mais ce passionné n'est pas le seul à envisager un nouvel avenir agricole pour les terres siciliennes, de plus en plus chaudes. Donc, de nombreux producteurs se sont mis à cultiver des fruits exotiques, des mangues, des fruits de la passion, des litchis, des papayes, des bananes, en lieu et place des oranges, citrons, mandarines et autres agrumes. À ce rythme-là, Fabienne, on aura bientôt des oranges milanaises.
Eh bien, allez savoir ce qu'on trouvera donc en Californie, chez Billie Eilish, à Pierre. Dan Ever sur France Inter.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. You call me again, drunk in your bed. death, but I'm wasting my breath. Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. Cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad. Cause that shit's embarrassing. You were my everything. And all the two things made me fucking sad. So don't waste the time.
Happier than ever sur France Inter. Joe Biden, lui, est beaucoup moins heureux qu'au début de son mandat. C'est le monde selon Biden, c'est tout de suite.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
Et c'est tous les lundis avec Sébastien Paour. Sébastien, les ennuis s'accumulent pour le président américain apparemment.
Ouais. L'Afghanistan en août, les projets économiques en octobre. Le Wall Street Journal s'interrogeait ce week-end. Est-ce que l'automne de Biden sera pire que son été? Fiasco donc du retrait de Kaboul mi-août, plafond de la dette à relever d'ici deux semaines, il vient d'en parler, et impasse au Congrès sur le vote des deux projets d'investissement. Le plan infrastructure, 1200 milliards de dollars pour construire ou rénover des routes, des ponts, des écoles, les transports. Texte adopté en août au Sénat, mais pas comme annoncé jeudi dernier à la Chambre. Et puis, les réformes sociales, 3500 milliards de dollars cette fois, dans l'éducation, la santé, la garde d'enfants, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Là, ça coince chez les démocrates, entre les progressistes et deux sénateurs centristes qui trouvent que les réformes sont trop coûteuses. Les négociations pourraient prendre des semaines. C'est le premier gros revers politique pour Biden. Le président américain, qui est même allé jusqu'au Capitole pour essayer de débloquer la situation, c'était vendredi. Et voilà ce qu'il a dit à la sortie.
I'm telling you, we're gonna get this done. It doesn't matter when. It doesn't matter whether it's in 6 minutes, 6 days, or 6 weeks. We're gonna get it done.
Voilà, Biden promet, on va y arriver, peu importe quand, peu importe que ce soit dans 6 minutes, dans 6 jours ou dans 6 semaines, on va le faire. La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, parle d'un possible vote du plan infrastructure à la fin du mois, mais beaucoup d'observateurs estiment que c'est encore une date très optimiste. Biden va demain dans le Michigan pour encore essayer de convaincre.
Et pendant ce temps, Sébastien, la Cour suprême reprend ses travaux, elle a de gros dossiers sur le feu.
Oui, c'est le retour en présentiel aujourd'hui après 18 mois de pandémie. D'ailleurs, les 9 juges ne sont pas là. Brett Kavanaugh est positif au Covid, il reste chez lui. Et au menu, en effet, du lourd, des sujets qui polarisent encore un peu plus la société américaine. D'abord, les armes à feu. La Cour suprême examinera dans un mois une affaire dans l'État de New York, un particulier qui conteste l'interdiction de porter une arme hors de son domicile. Et puis, l'autre date à retenir, c'est le 1er décembre. Cette fois, il s'agira de se prononcer pour ou contre l'arrêt Roe versus Wade de 1973. C'est l'arrêt qui autorise l'avortement aux États-Unis. Arrêt remis en cause évidemment par la loi au Texas depuis un mois et dans le Mississippi depuis une loi cette fois de 2018. Interdiction d'IVG là-bas après 15 semaines de grossesse. Plusieurs associations poursuivent l'État en justice. On ne parlait évidemment que de ces deux États, ou presque samedi, à la marche annuelle des femmes ici à Washington.
Rien à voir et en bien plus léger, tout sourit Sébastien à Tom Brady.
Ah oui, lui, c'est le célèbre quarterback des Tampa Bay Buccaneers, désormais 44 ans, plus grand passeur de l'histoire du football américain, record de distance battu hier soir. Il revenait pour la première fois depuis son départ sur son ex-terrain, celui des New England Patriots à Foxborough dans le Massachusetts. Il a porté leur maillot 20 ans, il a gagné 6 Super Bowls avec eux et à cause de la pandémie, il n'y avait pas eu d'adieu. Le stade était donc plein à craquer hier soir pour son retour. NBC résumait le match en un duel entre lui et son ancien entraîneur des Patriots, à grand renfort de clips à la gloire de Brady. This was not in this stadium. It was the old stadium. And Tony, it was a fumble. Brady, dont le nom a été scandé par tout le stade ou presque quand il est entré sur le terrain. Voilà, ça c'était l'un des clips qu'on a diffusé avant le match.
Allez, très rapidement, on termine avec la disparition de 23 espèces aux États-Unis, Sébastien.
Des moules d'eau douce, des poissons, une chauve-souris, une plante et 11 oiseaux déclarés éteints par l'organisme fédéral qui surveille la faune sauvage. Et parmi eux, celui-ci. C'est un enregistrement du pic à bec d'ivoire.
C'est bien ce que je vous ai dit, c'est Woody Woodpecker.
C'est quasiment Woody Woodpecker. Lui, il vivait dans les bayous de l'Arkansas, éteint maintenant en partie à cause de la présence de l'homme et de ses activités qui modifient le climat. Il y a aussi le kawaii-o qui a disparu, j'espère que je prononce bien. Très bel oiseau qu'on trouvait à Hawaï, avec un long bec fin recourbé pour aller chercher le pollen des fleurs.
Allez, le kawaii-o vient d'appeler, il dit qu'il s'appelle pas du tout comme ça. Sébastien, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Ce soir, Franck, au Royaume-Uni, le parti conservateur de Boris Johnson est réuni depuis hier à Manchester pour son congrès annuel. Le Premier ministre britannique a des raisons de se réjouir. Son pays a enregistré quelques bonnes nouvelles ces dernières semaines, mais il est aussi confronté à ses premières grosses difficultés post-Brexit. Et c'est votre monde d'après.
Oui, si je me mets, Fabienne, dans la peau d'un militant du parti conservateur, j'ai quelques raisons, en effet, d'applaudir avec ferveur Boris Johnson lors de son discours après-demain à la tribune du congrès des conservateurs. D'abord, les Tories, mon parti, donc, se porte bien. Il devance assez nettement l'opposition travailliste dans les intentions de vote. En plus, le Labour, qui tenait son congrès la semaine dernière, a exposé ses divisions entre l'aile gauche et les modérés qui soutiennent le chef du parti, Keir Starmer. Les conservateurs plutôt unis ont toujours une large majorité à la Chambre des communes. Merci Boris, qui a conduit le parti à la victoire il y a 2 ans. La gestion de la pandémie de Covid a été efficace. Certes, le bilan est lourd, au moins 68 000 morts, mais les restrictions ont été limitées et la campagne de vaccination a été un modèle du genre. Enfin, Boris Johnson nous avait promis des partenariats avec d'autres pays pour compenser la sortie de l'Union européenne, le fameux concept de Global Britain, pas très clair jusqu'ici, mais en septembre, le Royaume-Uni a signé un accord militaire avec les États-Unis et l'Australie, l'alliance AUKUS, et cerise sur le gâteau, la France est furieuse de ce sale coup et de la perte du contrat des sous-marins avec Canberra. Bravo, Bojo.
Sauf que les dernières semaines ont été beaucoup moins réjouissante.
Premières images embarrassantes, les files d'attente devant les stations-service, conséquence du Brexit. Le Royaume-Uni manque de main-d'œuvre bon marché, notamment de chauffeurs routiers qui venaient souvent d'Europe de l'Est pour livrer du carburant. Les automobilistes se sont rués sur les pompes à essence, des stations ont fermé leurs portes. La situation reste tendue à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Quelques 200 militaires ont été déployés aujourd'hui pour livrer du carburant. Ces soucis d'approvisionnement touchent les supermarchés aussi. Boris Johnson lui-même a admis que certaines marchandises pourraient manquer à Noël, scénario cauchemar pour le gouvernement. Le Royaume-Uni cherche encore des bouchers, des employés d'abattoirs. 120 000 porcs, Fabienne, pourraient être tués puis incinérés. Impossible de les traiter et de découper la viande, il n'y a pas assez de travailleurs. Le gouvernement a décidé la semaine dernière d'accorder plus de 10 000 visas provisoires pour trouver de la main-d'œuvre. Autre problème, la hausse des prix du gaz, comme partout, comme en France, y compris en France, donc elle a lié à plusieurs facteurs, cette hausse, dont la reprise soudaine de l'économie. Mais outre-Manche, plus qu'ailleurs, le manque de vent a joué un rôle important. Les éoliennes n'ont pas tourné à plein régime. La flambée des prix est donc encore plus impressionnante. Et au Royaume-Uni, les tarifs sont plafonnés pour protéger les consommateurs. Plusieurs fournisseurs ont donc dû mettre la clé sous la porte.
Et face à cela, Franck, la stratégie de Boris Johnson n'est pas très visible.
Non, la force de Boris Johnson, vous savez, c'est d'être parvenu à séduire les électeurs des classes défavorisées qui avait l'habitude de voter à gauche pour les travaillistes. Aujourd'hui, ce sont eux, les ouvriers, les bas salaires, qui sont les premières victimes de la hausse des prix de l'énergie. Ils pourraient se détourner des conservateurs, d'autant que le dispositif de chômage partiel, mis en place pour amortir les effets économiques de la pandémie de Covid, vient d'être stoppé la semaine dernière. Pour éviter l'effondrement du système de santé, Boris Johnson a aussi dû accepter une hausse des prélèvements sociaux et il n'exclut pas d'autres augmentations d'impôts, presque un gros mot chez les conservateurs. Sur la durée, il sera difficile de satisfaire à la fois les classes ouvrières qui se sont jetées dans les bras de Boris Johnson et les électeurs libéraux fidèles aux Tories. Autre défi, couper définitivement les liens avec l'UE, en finir notamment avec le protocole nord-irlandais, cette frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, pour éviter d'en recréer une autre entre les deux Irlandes. Mais Bruxelles ne semble pas disposée à faire des concessions. Et pas de chance, c'est la France, pas très anglophile ces temps-ci, qui prendra la présidence de l'Union en janvier.
Merci beaucoup. Le monde d'après de Franck Madvon tous les soirs dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Fini. Et puis le téléphone sonne, ne changez rien, à tout de suite.